Bon matin, ça va? Ça va bien? On est dans quelle thématique en ce moment? C'est quoi le thème? Le plan parfait. La semaine dernière, c'était sur la sexualité. Bizarrement, il y avait plus de monde la semaine dernière. Mais très heureux d'être là pour participer à cette thématique sur le plan parfait, à savoir si Dieu a des plans pour nous et c'est quoi la volonté de Dieu pour nos vies dans tous les aspects de nos vies. Est-ce qu'il y en a qui veulent connaître la volonté de Dieu pour leur vie ici? Ce que Dieu veut? Eh bien, ça va être très court ce matin. Je vais juste vous dire de lire votre Bible et on va être bon pour aujourd'hui. Amen? Amen? Il y en a qui sont pas sûrs. Non, c'est une joke, bien sûr. Je suis là pour apporter ma voix à cette thématique. Et aujourd'hui, on parle d'argent. Wouh! Merci d'être là. Il y en a, ils ne savaient pas, il y en a, ils ont lu le thème sur Instagram qui était « Faut-il être riche ou pauvre ?» Dieu veut-il qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre? C'est une bonne question, on s'en fout, je ne suis pas si sûr que ça. Je ne suis pas si sûr que ça qu'on s'en fiche parce que Dieu ne s'en fiche pas. Le plan parfait, Dieu a un plan pour nous. Est-ce que Dieu a un plan pour nos finances? Est-ce qu'il faut qu'on soit riche? Est-ce qu'il faut qu'on soit pauvre? Dieu et l'argent, qu'est-ce qu'il en pense vraiment? Qu'est-ce qu'il en pense vraiment? Ce qui est intéressant, c'est que Dieu en parle beaucoup dans la parole et il y a plein de sujets pratico-pratiques. De la même manière que Stéphanie, la semaine dernière, parlait de sexualité, disait on peut aller sur plein de sujets. L'argent dans la parole de Dieu, c'est la même chose. Il y a plein de sujets très concrets sur comment vivre avec nos finances, sur le fait d'avoir un budget, sur même les dettes, sur les impôts. Il y a plein de choses et on pourrait passer toute notre journée ici. Et vu qu'il y a une tempête de neige, on va avoir le temps. Merci Seigneur. Mais je crois que vous avez choisi la bonne place ce matin pour être. Vous êtes d'accord? Ou c'est dur ce matin, c'est dur. C'est dur. On va y arriver, on va y arriver. Ok. Alors, hop. Parfait, génial. L'argent. On n'en parle pas souvent dans l'Église. En général, on n'aborde pas trop le sujet, sauf pour la fameuse annonce sur les offrandes. Il y a trois façons de donner. Mais c'est un sujet avec lequel, des fois, on est mal à l'aise. Moi, personnellement, je ne suis pas mal à l'aise avec ce sujet. Je pense que c'est important qu'on puisse parler de tous les sujets. Je ne suis pas mal à l'aise de parler de ces sujets de sexualité, d'argent. Pourquoi? Parce que ça fait partie de nos vies. Et Dieu le sait très bien. Et Dieu en parle dans sa parole. Et des fois, je crois que l'Église, on a échoué dans le fait de parler de ce sujet-là. Parce qu'en voulant ne pas en parler, on a gardé les gens dans l'ignorance de ce que Dieu voulait faire avec nous, avec nos vies, avec nos finances. Et je crois que non seulement Dieu veut nous libérer avec nos finances, veut nous épanouir, mais je crois qu'il veut nous amener plus loin dans ce qu'on croit et dans ce qu'on vit avec lui. Amen. Amen, j'aime ça, c'est amen, c'est bon. Et on a du mal à en parler parce que quand on en parle souvent dans l'Église, il faut avouer que c'est un peu suspect. C'est un peu suspect. Qu'est-ce qu'on va nous dire sur l'argent? Je me permets d'en parler avec Shane, ça va? On en parle souvent, Shane, on est à l'école tous les deux, et il me disait, ah, tu sais, je viens à l'église, mais là, ma famille se pose des questions, c'est une secte, c'est une affaire, ils t'ont plus demandé de l'argent. C'est souvent ça qu'on a. Et donc, c'est toujours un peu suspect de dire, ah, ils te demandent de l'argent, c'est quoi cette affaire-là, tu sais. On est toujours mal à l'aise un peu avec ça. Et pourquoi? Parce qu'il faut bien avouer qu'on a eu un peu toutes les tendances dans l'église. On a eu un peu toutes les tendances. On est passé de plus je suis pauvre à plus je suis spirituel. Vous la connaissez, celle-là? Ah, oh, plus je suis pauvre. Ah oui, moi je suis pauvre, mais je suis spirituel, tu comprends? Ou on a eu des moines qui sont devenus ascètes, sans le sou, et plus tu étais sans le sou, mieux c'était, plus tu étais spirituel. Est-ce que vous me suivez? Et on est passé à un autre côté, à un autre pan du balancier, où plus tu es riche, plus tu as la faveur de Dieu sur ta vie. Et presque si tu n'es pas riche, ce n'est pas normal et tu n'es pas dans la normalité de Dieu. Et presque tu dois culpabiliser si tu n'as pas trop d'argent. Vrai ou pas? Et depuis quelques années, on a ce qu'on appelle l'évangile de prospérité. Vous connaissez? L'évangile de prospérité, où la normalité, c'est que tu sois riche et tu dois donner. Et la seule personne qui devient riche à la fin, c'est la personne qui prêche la prospérité. Vrai ou pas? Est-ce qu'on peut se dire les vraies affaires ce matin? C'est souvent ça. Et on a eu des tendances comme ça, ce qui fait que le problème de ça, c'est qu'on n'ose pas trop en parler parce qu'on a peur d'être taxé de l'évangile de prospérité. Le problème de toutes ces choses-là, c'est qu'il y a du vrai dans toutes. Le problème, c'est que ça a été aux extrêmes et qu'on a tout balancé, on a jeté Le bébé avec l'eau du bain, merci beaucoup. Le bébé avec l'eau du bain. Mais il y a des vérités et je crois que c'est important de les dire et d'en parler ce matin. On a besoin d'en parler. Même si des fois c'est un peu tendu sur le sujet qu'on a du mal à l'aborder, parce que c'est tellement un sujet central de nos vies et de la parole de Dieu. Ce sujet est intimement lié à la vie de tous les jours. La preuve, qu'est-ce qu'on parle à la télé? L'inflation, les tarifs douaniers. C'est ça qu'on parle. On parle de ça, surtout au Saguenay avec 25% de tarifs douaniers, c'est incroyable. Mais c'est aussi un sujet lié à notre cœur, à nos intentions et à nos motifs, sur ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Le problème avec l'argent, c'est qu'il nous anesthésie, il nous endort. Il nous fait croire qu'on n'en a jamais assez et surtout qu'il nous fait croire qu'on est tous sauf riches. Si je demande, si je pose la question ce matin, qui est riche ici? Oui, bien sûr, parce que je pose la... Tu sais, mais il y en a qui vont dire, oui, je suis riche en Jésus. Alléluia, ma sœur, bravo. Mais je parle d'argent financièrement. Si je pose la question, qui est riche? Peu de personnes vont lever la main. C'est ça qui va arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est drôle avec l'argent, c'est qu'on ne se considère jamais riche. Parce qu'on regarde toujours à plus riche que nous. C'est rare qu'on se compare à ceux qui sont plus pauvres que nous. Très souvent, on veut l'égalité. L'égalité avec qui? Avec ceux qui sont au-dessus de nous. Jamais avec ceux qui sont en dessous. C'est comme ça qu'on regarde la vie en général. Et on a ce défi-là avec l'argent qui nous anesthésie. Juste pour que vous le sachiez, même celui qui a 100 millions de dollars dans son compte, il va dire, moi riche, tu rigoles ou quoi? Regarde Bill Gates, il a 200 milliards. On se compare toujours avec ceux qui ont plus. Je ne sais pas si vous le savez, mais pour faire partie des 10% les plus riches de la planète, votre revenu doit être de 38 000 dollars. Les 10% les plus riches de la planète. Bienvenue chez les riches, mes amis. Il y en a qui sont étudiants, on dit, oh, moi je peux te dire que c'est compliqué parce que j'ai des dettes d'études. Si vous voulez faire partie des 5% les plus riches, c'est 68 000 dollars. On est plus riche que ce qu'on pense. À un moment donné, j'avais lu quelque chose, c'était intéressant, et qui disait, si tu as un compte en banque, si tu as Internet, si tu as un toit que tu manges tous les jours, tu fais partie des riches de la planète. Tu fais partie des riches de la planète? Et si je vous pose la question, est-ce que vous êtes riche? De dire, oh, tu sais, c'est pas non plus. Enfin, t'as vu mon voisin, oh, il a un super abri d'impôt. On se compare toujours avec ceux qui ont plus. Le problème, c'est ça, c'est qu'on se compare toujours avec ceux qui ont plus ou qui gagnent plus que nous. Mais que dit la Bible sur l'argent? La Bible dit plein de choses. La Bible dit plein de choses sur l'argent et c'est vraiment, vraiment intéressant. Que dit la Bible sur le sujet? Est-ce qu'elle en parle? Est-ce que Jésus en parle? Oui, la Bible en parle, mais est-ce que Jésus en a parlé? Oui, Jésus en a parlé. 20%, 20%, non, ce ne sont pas les tarifs douaniers, 20%, c'est le pourcentage des enseignements de Jésus qui portent sur les finances, l'argent et la générosité. En fait, si on suivait ce modèle-là, Stéphanie, il faudrait qu'on prêche une fois par mois sur l'argent. Très souvent, on en parle une fois par année. Mais Jésus en parlait souvent. Pourquoi? Parce que ça vient chercher les motifs de nos cœurs. Jésus a raconté environ 11 paraboles qu'il traite directement de l'argent et de la gestion des biens. Pourquoi? Parce que ça faisait partie de la réalité du quotidien des gens. Flash news, rien de nouveau sous le soleil, ça a encore le cas. On parle encore de ça. Et on nous le rabâche tout le temps. Puis, as-tu cotisé pour tes RR? Puis, ton CELI, c'est-tu maxé? Puis, ton emprunt pour ton char, ça avance, il te reste combien? 3,5. Ah ouais, à combien? À 7%. Ah ouais, on en parle tout le temps, c'est une réalité. Ah, tiens, je viens de recevoir mon compte de taxe. Ah, tiens, Hydro est passé. Ça fait partie de notre réalité. Ça fait partie de la réalité. Quelques citations de Jésus sur l'argent. 1. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent, qui nous parle des priorités spirituelles. 2. Que celui qui construit une tour sache combien ça lui coûte. Oui, Jésus parlait de budget. Fais-toi un budget. Oh Seigneur, tu vois ma situation, c'est compliqué. Help! Fais un budget, mon ami, ça ira mieux. Dieu nous parle de budget. Budget ton affaire. 3. Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On parle des obligations civiques et spirituelles. On parle des impôts. Mais c'est ça. 4. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où mets-tu ton argent? Où sont tes investissements spirituels? 5. Donner, il vous sera donné. On parle de générosité et de réciprocité divine. On pourrait faire un message sur chaque passage. Et ça, c'est juste quelques passages de Jésus. Je ne vous ai même pas sorti toute la Bible. L'affaire, ce qui arrive avec l'argent, c'est que beaucoup croient à tort que Dieu est contre l'argent. C'est faux. Dieu n'est pas contre l'argent. Beaucoup croient que Dieu est contre les riches. Dieu n'aime pas les riches. C'est faux. Dieu n'a rien contre les riches. Dieu ne t'aime pas plus parce que tu es pauvre et Dieu ne t'aime pas moins parce que tu es riche. Il n'y a aucun moment dans la parole de Dieu où vous trouverez ça. Avoir de l'argent n'est pas un péché. Allô ? Avoir de l'argent n'est pas un péché ? Il n'y a aucun problème avec ça. D'ailleurs, dans 3 Jean 1-2 nous dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » À tous égards. Dieu veut que tu sois bien, il n'y a aucun souci avec ça. En fait, le problème, ce n'est pas l'argent, c'est l'amour de l'argent. Dieu n'a pas de problème avec l'argent. L'argent est juste un outil. Le problème, c'est quelle place a l'argent dans ta vie. Et c'est là que Dieu vient chercher nos cœurs et nos motifs. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas le montant qu'il y a sur ton compte. S'il y a 5,62 sur ton compte, ou s'il y a 3 720 000 dollars, oui, je sais, il lève la main pour les 3 700 000. Ce n'est pas le souci. La question pour Dieu, c'est de savoir, est-ce que cet argent qui est 5 piastres ou qui est 3 millions, est-ce qu'il est disponible pour moi? C'est ça que Dieu veut savoir. Et je connais des gens pour qui le 10 piastres n'est pas disponible et le 3 millions est disponible. Et je connais des gens pour qui le 10 piastres est disponible et le 3 millions n'est pas disponible. Le plus important, ce n'est pas l'argent. Ce que Dieu veut, c'est de savoir si l'argent a trop de pouvoir sur toi. Savoir si ta priorité de vie, c'est Dieu ou c'est l'argent. Et ça, ça n'a aucun rapport avec le montant de ta richesse. Ma question pour toi ce matin, c'est, fais-tu confiance à Dieu? Est-ce que vous faites confiance à Dieu? Pas trop, va falloir prêcher là-dessus, Stéphanie. Les gens n'ont pas confiance en Dieu. Fais-tu confiance à Dieu? Vraiment? Fais-tu aussi confiance à Dieu avec ton argent? Amen. Il y en a, ils déclarent par la foi. Non, mais oui. J'avais écouté un podcast en Inde, ça, il y a plusieurs années qui a changé ma façon de voir et qui m'avait fait... Oh! Tu sais, quand des fois, Dieu te... Oh! C'est tellement évident que ça fait mal. Et c'est une citation de Rick Warren qui disait « Si tu ne fais pas confiance à Dieu avec ton argent, tu ne lui fais tout simplement pas confiance. » Je laisse ça descendre. Vous êtes toujours là? Oh, que ça m'avait fait mal, ça. Seigneur, j'ai confiance en toi, oui, pour mes études, pour ma femme, pour ma famille, pour mon futur, pour mon argent. Bon, écoute, ça, on va s'arranger. Ça, c'est, bon, écoute, tu t'occupes de tes affaires, je vais m'occuper des miennes. Parce que souvent, l'argent, c'est la dernière chose qui finit par se convertir dans nos vies. Si tu ne fais pas confiance à Dieu avec ton argent, tu ne lui fais tout simplement pas confiance. En réalité, l'argent, au-delà d'être un outil, au-delà d'être un danger spirituel pour nos vies, c'est un révélateur. L'argent révèle nos cœurs. L'argent révèle nos intentions, nos priorités. Dis-moi où tu mets ton argent, je te dirai qui tu es. Et c'est pour ça que Jésus a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où est-ce que tu mets ton argent? Où est-ce que tu l'investis? En fait, on pourrait éplucher nos cartes de crédit et dire, je vais te le dire, où est-ce que tu mets ton argent? Il est dans les jeux. Oh, toi, il est au casino. Oh, toi, c'est OnlyFans, apparemment. Est-ce que vous me suivez? Où tu mets ton argent? Je te dirai qui tu es. L'argent révèle ton cœur. Deuxième point ce matin, l'argent révèle ton cœur. Il y a dans les évangiles une rencontre intéressante entre Jésus et un jeune homme riche. Ce qui est intéressant aussi, avant que je continue, c'est qu'on ne voit pas de jugement de Dieu sur la richesse ou la pauvreté. Il n'y a pas de jugement, mais il y a des faits. Un de ces faits-là, une des choses, c'est dans Proverbes, puis ce n'est pas dans le PowerPoint, si jamais, c'est il est écrit que le riche domine sur le pauvre, et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Il n'y a pas de jugement, c'est juste une réalité. Si tu as un paiement de char, tu es esclave du prêteur. Si tu as une maison et que tu payes une hypothèque, tu es esclave de la banque, parce qu'il faut que tu la payes. Et qu'est-ce qui se passe si tu ne la payes pas? Ils te la prennent. Et leur slogan, c'est « Nous voulons votre bien, et nous l'aurons. » On est esclave. Mais il n'y a pas de jugement de valeur, c'est juste factuel. Et j'aime cette rencontre de Jésus avec le jeune homme riche. Dans Marc 10, on va lire un peu la parole de Dieu, ça vous va ce matin? Ça va être un peu long, mais c'est bon. Marc 10, 17 à 27. Comme il partait, Jésus, un homme accourut, se jeta à genoux devant lui et lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?»« Pourquoi m'appelles-tu bon ?» lui répondit Jésus. « Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais pas de tort à personne, honore ton père et ta mère. Et là, tous les parents disent, j'espère que c'est ça qu'ils vont apprendre ce matin avec les enfants. Maître, répondit l'homme, tout cela je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour et lui dit, il ne te manque qu'une chose, va, vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras un capital au ciel. Puis viens et suis-moi. En entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste, car il était très riche. Jésus parcourut du regard le cercle de ses disciples, puis il leur dit, « Hey, am I ?» Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Cette parole les surprit, mais Jésus insista, « Oui, mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés. Ils se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, c'est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Amen. Est-ce que vous me permettez de prier ce matin ? Seigneur Jésus, merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour tes conseils, merci pour ta sagesse, Seigneur. Merci pour ta vie, Seigneur. Merci pour tous tes enseignements, Seigneur. Je te prie pour ta main ce matin. Tu puisses parler à nos cœurs, Seigneur, à travers ce message-là qui n'est pas toujours facile à amener, à apporter. Mais Seigneur, je te prie que ton esprit puisse convaincre chacun, moi le premier, Seigneur, dans ce que tu veux pour nos vies, avec nos finances, Seigneur. En ton nom, je remets cette prédication ce matin, dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Le chameau et l'aiguille. Le chameau et l'aiguille, c'est quoi ? C'est une métaphore d'impossibilité. Pourquoi ? Parce que le chameau était l'animal le plus gros qu'il connaissait à l'époque et l'aiguille était l'objet le plus petit qu'il connaissait à l'époque. Tu comprends bien que pour faire passer un chameau dans le trou d'une aiguille, well, on se rappelle quand tu as réussi. Ça n'arrive pas. En gros, c'est une métaphore d'impossibilité. Pourtant, ce qui arrive, c'est qu'il y a Job. Il y a Job, il y a Abraham, il y a Isaac, il y a Jacob, il y a David, il y a Salomon, il y a Joseph et plein d'autres hommes qui étaient dans le royaume de Dieu et qui étaient des hommes très riches. Est-ce qu'à un seul moment, Dieu leur a dit « me semble que tu es un peu trop riche ?» Jamais. Pourtant, on se dit « mais je ne comprends pas, il me semblait qu'avant, les gens riches, c'était ceux qui entraient dans le royaume de Dieu, puis là, tu es en train de nous dire que c'est comme impossible pour eux. Qu'est-ce qui se passe ?» Et dans ce passage, il y a deux notions qui passent par la tête des disciples, et c'est pour ça que Jésus les regarde. Il y a la moralité et il y a la richesse. Car ce jeune homme, il est riche, mais il est riche matériellement et moralement. Aux yeux des gens de l'époque, lui-là, il a tout pour être sauvé. Il a tout. Il a obéi au commandement de Dieu et en plus, il est riche. Il n'est pas seulement riche, il est décent, il est moral, il est droit. En gros, il vit une bonne vie. Tout ce que les gens d'aujourd'hui diraient, même s'ils ne sont pas croyants, ils disent « peu importe ce que tu crois, écoute, si tu as une bonne vie, c'est tout ce qui compte ». Mais il y a deux principes de Jésus qui viennent contredire ce que le monde croit et ce que le monde nous dit. Le premier principe, c'est au verset 25. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Oh, je croyais que quand on était riche, on allait dans le royaume de Dieu. Et le deuxième, c'est « pourquoi m'appelles-tu bon ?» lui répondit Jésus. « Personne n'est bon sinon Dieu seul. » Comprenez bien que quand Jésus dit « pourquoi m'appelles-tu bon ?», il n'est pas en train de dire qu'il ne l'est pas. Mais en gros, il pose la question « comment définis-tu quelqu'un qui est bon ?» Personne n'est bon. Tu peux être la personne la plus morale qui existe. Et tu n'auras pas accès au royaume de Dieu. Parce que tu as besoin de la grâce et de l'amour de Jésus dans ta vie. La même chose pour le fait qu'il soit riche. Jésus est en train de dire « votre compréhension des richesses et de la moralité est mauvaise ». Et les disciples, à ce moment-là, ils ne comprennent pas parce que Jésus il est en train de dire que plus ils ont de l'argent, plus ils sont en danger spirituel. Sauf que eux, dans leur concept, ils ne comprennent pas. Parce qu'à l'époque, ta richesse était une indication de la faveur de Dieu sur ta vie. Ça a indiqué que, oh waouh, Dieu prend plaisir en toi, Dieu met sa faveur sur toi. Et si tu prospérais financièrement, ça voulait dire que Dieu t'aimait. Pourquoi ? Parce que tu es une bonne personne morale. Pour eux, la richesse était en corrélation avec la moralité de la personne. Mais si tu ne prospérais pas ou que tu vivais des difficultés financières, l'idée perçue était que tu ne vivais pas une bonne vie selon Dieu. Et donc, ils ne comprennent pas. Et c'est pour ça qu'en fait, Pierre pose la question, il dit, mais si même les riches ne peuvent pas être sauvés, qui peut être sauvé ? Nous qui sommes pauvres, on est faits, on ne pourra pas rentrer dans le royaume de Dieu. Ah, vous ne l'aviez jamais vu comme ça. Vous pensiez, qui peut être sauvé ? Oh, juste là. Non, non. Si les riches qui eux normalement doivent entrer dans le royaume de Dieu ne sont même pas sauvés. Mais tout le reste, comment tu veux qu'on y arrive? Et Jésus vient remettre en question toute leur perception sur c'est quoi une bonne vie morale et c'est quoi la richesse. Les gens disaient que si tu es riche, Dieu est avec toi. Si tu vas mal, Dieu n'est pas en accord avec toi. Ce qui nous est dit, c'est que dans la parole de Dieu, souvent, c'est que la richesse peut venir et s'en aller à cause de raisons en dehors de notre contrôle. Je trouve que le meilleur exemple dernièrement, c'est quoi? C'est les incendies à Los Angeles. Il y a des maisons de pauvres et de riches qui sont parties en feu. En dehors de leur contrôle. Ce n'est pas une question qu'ils ont une bonne vie ou pas. La Bible nous dit qu'il pleut sur les riches, il pleut sur les bons et sur les méchants. Et c'est en dehors de notre contrôle. L'autre chose, l'autre constante biblique est que la richesse met plus en danger notre santé spirituelle que la pauvreté. L'idée, ce n'est pas qu'il est bon d'être pauvre. Ce n'est pas ça du tout. Jamais vous ne verrez ça dans la Bible. Oh, qu'il est bon que je sois pauvre. Pas du tout. D'ailleurs, trop de pauvreté peut nous amener à voler. Mais le fait est qu'il y a des dangers liés à l'argent, ou en tout cas à l'amour de l'argent. Quand le jeune homme riche vient voir Jésus et lui demande « Maître, comment faire pour obtenir la vie éternelle ?» il s'attend à ce que Jésus lui donne une réponse de théologie, ou lui donne une réponse de morale. En gros, qu'il lui dise « Ok, j'ai tout fait, mais c'est quoi les conditions ultimes ? Donne-moi les conditions, je veux savoir. » Et il lui dit « Je suis vraiment une bonne personne, j'honore Dieu, j'obéis aux commandements, je suis très moral, je cherche Dieu. » Écoute, presque à la limite, il s'expose devant tout le monde et dit « Regardez comment je suis bon. Regardez comment moi je l'ai l'affaire. » Et malgré ça, il semble qu'il manque quelque chose. Et c'est souvent ce qui arrive à toutes les bonnes personnes. La vérité, c'est qu'autour de nous, on connaît tous des bonnes personnes. Tu sais, ces personnes, tu te dis, il me semble qu'il leur manque juste Jésus. Et des fois, tu regardes à l'église, tu fais, on a-tu vraiment Jésus, nous autres? Mais ça arrive à toutes les bonnes personnes de dire, je fais tout ça, je suis une bonne personne, je donne aux pauvres, je fais ci, je fais ça, je suis un bon papa, je suis un bon mari, Mais il me semble qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Ça arrive à toutes les bonnes personnes. Et c'est pour ça qu'il vient voir Jésus. Et il s'attend à une réponse genre, mon jeune ami, il te manque une compréhension théologique que tu n'as pas encore saisie, ou voici la dernière chose à faire. Mais au lieu de ça, Jésus commence à lui parler d'argent. Pourquoi? Parce que Jésus est excellent en counseling pastoral. Il fait du très bon counseling pastoral. Et Jésus tend toujours à regarder jusqu'au fond du cœur pour aller chercher les vérités cachées sous la surface. Jésus va toujours en profondeur. Voici ce qui se passe. Il est en train de dire, t'as obéi au commandement. C'est incroyable. Ok, et si on regardait un de ces commandements, tu veux bien? Par exemple, on y va avec le premier. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Allez, on va commencer avec celui-là. On va voir comment tu te débrouilles avec celui-là. Et la raison pour laquelle il parle d'argent, c'est parce que c'est le problème de cet homme. L'argent est devenu son Dieu en réalité. C'est devenu son Dieu. Commençons avec le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Mais il y en a un qui a pris la place de moi, c'est l'argent. L'argent est devenu ton Dieu. La raison pour laquelle il l'a appris lui comme ça, c'est parce que Jésus est le conseiller merveilleux. C'est un chirurgien compétent et il sait quelles sont les tumeurs dans ton cœur et dans ton âme. Il le sait. Il sait ce qui te détruit et ce qui diminue Dieu dans ta vie. Et c'est la raison pour laquelle il part d'argent au jeune homme riche. Pourquoi? Parce que c'est la tumeur dans l'âme de cet homme. Il lui parle d'argent et lui dit, il te manque une seule chose, donne tout ce que tu as, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et suis-moi. Et alors tu auras la vie éternelle. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Est-ce qu'il est en train de dire qu'il faut donner tout ce qu'on a pour être sauvé? Non. Mais je vous avoue que je me suis posé cette question à un moment donné. De dire, attends, il lui a demandé, donc est-ce que moi aussi, il faut que je donne tout Puis là, on n'aime pas trop ces passages-là, on passe. Oh, je ne comprends pas trop. Est-ce que Jésus est en train de dire qu'il faut tout donner ce qu'on a pour avoir la vie éternelle? Non, absolument pas. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun endroit dans la Bible où il est demandé d'être volontairement pauvre. Il n'y a aucun endroit dans la Bible... ça parle ce matin, lui. J'espère que le troisième point va te parler, ma sœur. Il n'y a aucun endroit dans la Bible où Dieu nous demande d'abandonner tout ce qu'on a. Jésus ne cite aucune écriture. Il n'y a aucun moment où il dit quelque chose comme... comme il est écrit dans la loi, donne tout ce que tu as aux pauvres. Non, il ne le dit pas. Pourquoi? Parce que c'est écrit nulle part. C'est écrit nulle part. Non, Jésus est après cet homme à cause de son attitude vis-à-vis de ses richesses. Pourquoi? Parce que c'est devenu une idole qui contrôle sa vie. C'est quoi une idole? Une idole, c'est une bonne chose à la base et qu'on décide de transformer en Dieu. C'est une bonne chose à la base, mais qui a pris trop de place dans notre vie. C'est quelque chose qui n'a pas été soumis à Dieu. Et très souvent, c'est deux sujets, le sexe et l'argent. C'est souvent ça. Ah oui, prends tout, Seigneur, sauf mon argent. Vous savez, il y a une image qui moi m'a marqué quand j'étais plus jeune, c'est l'idée que des fois, quand on décide de se faire baptiser, de passer par les eaux du baptême pour dire que Seigneur Jésus, je t'ai accepté comme mon sauveur et Seigneur et je décide de m'engager avec toi, on passe par le baptême. Est-ce qu'il y en a qui se sont fait baptiser ici? Ouais, good. Et donc, on va dans le baptistère et c'est cette idée que on s'allonge dans le baptistère ici. Et là, il y a le pasteur qui est là à côté. Alors, est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Oui. Est-ce que tu crois qu'il est mort pour toi? Oui. Est-ce que tu l'acceptes comme ton sauveur et Seigneur? Oui. Attends deux secondes. Attends. Bon, je vais me faire baptiser par contre mon portefeuille. Non. Voilà. Là, on peut y aller. Est-ce que vous me suivez? C'est comme si on se fait baptiser, mais notre portefeuille, lui, notre compte en banque, il ne se fait pas baptiser. On est correct pour que Jésus soit notre sauveur, mais notre Seigneur, pas tout à fait. On a chanté tout à l'heure, le roi, tu es mon sauveur, le roi de ma vie. Est-ce qu'il est vraiment le roi de mes finances? Est-ce que si Dieu me demande demain de donner les 10 000 dollars que j'ai sur mon compte, est-ce que je vais dire oui, bien sûr, dire, Seigneur, on peut s'arranger. Est-ce que vous me suivez? Et on n'a pas de problème de recevoir Jésus pour sa grâce, son amour, sa bonté. On n'a pas de problème souvent dans « je reçois ». On a du mal souvent avec « je redonne ». On se fait baptiser mais sans le portefeuille. « Oui Seigneur, change-moi, tu as accès à tout, sauf mes finances. » Et Jésus est en train de dire « l'argent lui-même n'est pas une mauvaise chose, mais c'est devenu ton assurance, ta sécurité. C'est ce qui fait que tu te sens important. C'est ce qui fait que ça te définit. En fait, l'argent est devenu ton identité. » Et Jésus va au fond du cœur et va au fond des choses et dit, le problème, ce n'est pas l'argent, c'est ce que l'argent est devenu pour toi. C'est devenu ton roc. Tu dis, oh Jésus, tu es mon roc. Non, c'est l'argent qui est ton roc. Tu t'es assuré de ne pas t'appuyer sur Dieu. Et des fois, c'est plus subtil parce que pour certains, l'argent te donne l'impression et le sentiment de contrôler ta vie. Si j'ai tel montant sur mon compte, là, ça va aller. Et vu que j'ai ce montant-là, Seigneur, tout peut faire, mais j'ai ce montant-là, je suis en sécurité. Et comprenez-moi bien, il n'y a pas de mal à avoir tant d'argent, des REER, une maison, il n'y a pas de souci avec ça. Le problème, c'est quand ça devient ton assurance, ta sécurité, ton identité, et que Jésus est en deuxième position. Le jeune homme est attaché à ses richesses, et le problème, c'est qu'il en est esclave et prisonnier. Et le désir de Jésus à ce moment-là, ce n'est pas de le rendre pauvre, c'est de le libérer de ça. C'est de le libérer de cette chaîne qui le rend captif et prisonnier. Il ne dit pas seulement « donne tout ton argent ». Il dit « donne tout ton argent et suis-moi ». Et il y a une subtilité là-dedans. Parce qu'il essaie de lui dire « je veux que tu réalises que si tu m'as moi, tu as tout ce dont tu as besoin. Si tu m'as moi, tu as tout ce dont tu as besoin. » En gros, Jésus plus rien égale tout. Si tu as Jésus dans ta vie, tu as tout ce dont tu as besoin. Mais souvent, ce genre de choses, Jésus plus rien égale tout, tu le réalises quand tu es dans la... C'est souvent ça qui arrive. C'est souvent ça qui arrive. Mais Jésus est en train de lui dire, « Ouais, donne tout et suis-moi. Donne tout et tu vas réaliser qu'avec moi, tu auras tout ce dont tu auras besoin. » C'est ça qu'il lui dit. Il essaie de lui dire que si tu te débarrasses de ton argent et que tu me suis, je suis tout ce dont tu as besoin. Et il y a une subtilité aussi qui est là, c'est que Jésus ne dit pas seulement « donne tout ton argent ». Il dit « donne tout ton argent aux pauvres ». Parce qu'on pourrait donner notre argent pour plein de choses. Mais il dit « donne-le aux pauvres ». Pourquoi? Non. Ce n'est pas parce que c'est eux qui en ont le plus besoin. C'est parce que nous, on a besoin de le donner aux pauvres. Pourquoi on a besoin de ça? Parce qu'il n'y a rien qui ait plus notre perspective que d'être profondément impliqué avec des gens qui ont de grands besoins. Très souvent, comme j'ai dit, on se compare avec ceux qui sont au-dessus de nous et on voit ce qui nous manque. Ouais, j'ai une maison, ouais, mais mon voisin, il a une piscine. Ouais, mais si tu vas voir les pauvres, eux, ils n'ont même pas d'abri. Et donc, ça met en perspective ta richesse. J'ai été dans la rue avec les sans-abri une nuit, je peux vous dire que ça a transformé ma façon de voir l'argent. J'ai donné des paniers de Noël. J'ai vécu en Afrique. Je sais ce que c'est que la pauvreté. Je sais ce que c'est. Oh, je ne l'ai pas vécu, mais je l'ai côtoyé. Je l'ai côtoyé. Et je peux vous dire qu'ils sont 10 fois plus pauvres que nous, mais ils sont 10 fois plus heureux. Parce qu'ils se contentent de ce qu'ils ont. On pourrait faire toute une prédication sur le contentement de ce que j'ai. Les disciples étaient abasourdis à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'ils croyaient que les gens riches étaient les gens parfaits pour faire partie de la nouvelle Église. Et j'imagine les disciples dire, « Écoute, Seigneur, on est 12, on n'a pas de job, si tu veux, on n'a pas d'argent. Eh, un gars riche, franchement, ça ne nous aiderait pas ? On ne serait pas bien avec ce gars riche ? Ce serait dope, franchement. Ça pourrait nous aider. » Et j'ai dit, « Je suis désolé, mais je ne peux pas travailler avec toi. Si tu n'abandonnes pas ce que tu as, je ne peux pas travailler avec toi. » Pourquoi ? Parce que Dieu, par-dessus tout, veut ton cœur. En fait, Dieu ne veut pas ton argent. Il n'en a pas besoin. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Son but, c'est de te libérer. Et le but, éventuellement, puis on va le voir tout à l'heure, c'est qu'on puisse être une lumière pour lui. Mais voici une des façons de savoir si l'argent est trop important pour toi. Premièrement, le test de l'envie. Est-ce que quand les gens font beaucoup d'argent autour de toi, est-ce que tu les envies ? Est-ce que ça vient te chercher ? Ouais, moi je fais 80 000, mais lui, il fait 180 000. T'sais, moi, si je faisais 180 000 comme lui, moi, puis lui, il s'achète un skidou. Là. Est-ce que ça vient de chercher le test de l'envie ? Le test de l'anxiété. Es-tu toujours en train de penser à l'argent ? Es-tu inquiet, préoccupé à propos de l'argent ? Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Le test de la dépense ou de l'épargne. Est-ce que tu te sens mieux quand tu fais du magasinage et que tu achètes des nouvelles choses sur Amazon, Temu ou autre ? Est-ce que ça te fait du bien ? Ou à l'inverse, toi, ton bonheur total, c'est de dire oh, « ça fait 5 jours, je n'ai rien acheté, oh, c'est bon. » Dans tous ces cas, il se pourrait que l'argent soit ton défi. Et si Jésus était là, il te parlerait sur ce sujet. Moi, si je suis honnête avec vous, le test que j'ai du mal à passer, c'est le test de l'envie. Il y en a qui ne me laissent pas seul, ils me disent « Amen ». Si je suis honnête avec vous, c'est ça. L'anxiété, je ne suis pas anxieux. J'ai vécu en Afrique, puis je sais ce que c'est que Dieu pourvoit. Puis je vais en parler tantôt. Je sais ce que c'est. Donc, je sais que ma vie est entre ses mains. Par contre, moi, je suis plus tenté, puis je pense que c'est notre société aussi, tu sais, nord-américaine, de « je veux plus, je veux ce que le voisin a, moi, je veux plus, plus, plus ». Puis c'est pernicieux, tu sais, c'est juste entre tes deux oreilles que ça se passe. Moi, il faut que je fasse attention à ça. Est-ce que je fais les choses pour l'argent ? Est-ce que je le fais parce que je crois que Dieu m'a demandé de ? Est-ce que vous me suivez ? Est-ce que je suis le seul ? Priez pour moi. Maintenant, le remède au pouvoir de l'argent. Comment se sortir du pouvoir de l'argent ? Comment faire ? Eh bien, c'est simple. Regarde au jeune homme riche. Tu te dis pourquoi ? Il était dans l'erreur, il a échoué, il avait l'occasion d'aimer les gens, de donner ce qu'il avait, de donner son argent. Et à la place, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est parti comme il est venu avec son argent. Alors, je ne parlais pas de ce jeune homme riche-là. Car en réalité, il y avait deux jeunes hommes riches dans cette histoire-là. Est-ce que vous l'aviez remarqué ? Oui, il y a deux jeunes hommes riches dans cette histoire-là. Vous n'avez pas vu l'autre jeune homme riche ? Non ? Jésus avait à peu près 31 ans à ce moment-là. Il était assez jeune et Jésus avait été très riche parce qu'il a quitté la gloire du ciel pour venir. Matthieu et Marc, dans les évangiles, nous disent qu'avant de confronter le jeune homme riche, Jésus le regarda et posa un regard plein d'amour sur lui. Souvent, on a tendance à voir la fin de l'histoire où il est parti, puis tu sais, on trouve ça brutal. Mais quand Jésus le voit venir, il pose un regard plein d'amour. Pourquoi ? Parce que je suis sûr qu'il s'identifie, dit, je sais ce que tu vis, je connais, je sais ce que c'est de quitter ce que j'ai, de tout lâcher pour Dieu. Dans son esprit, Jésus aurait pu le regarder et se dire, oh mon ami, je suis aussi un jeune homme riche, ou du moins je l'étais. Mais par amour pour les gens comme toi, j'ai délaissé ma gloire. Je suis devenu mortel, je suis né dans une mangeoire, je vais mourir sur une croix, je vais être dépouillé de tout ce que j'ai, je vais perdre l'amour de mon père, et même jusqu'à ma vie. Et je fais tout ça par amour pour toi. Tu n'aimes pas assez les gens pour donner ton argent, mais je vais t'aimer assez pour donner ma vie pour toi. Pour que tu puisses avoir la seule richesse qui dure, Dieu lui-même, le pardon et la vie éternelle. Si nous croyons en Jésus, est-ce qu'on réalise à quel point le jeune homme riche, Jésus, a tout abandonné pour nous ? En lui, j'ai tout, j'ai la sécurité, j'ai l'amour, je trouve mon identité, je trouve ma valeur. Et quand tout ça commence à descendre, ton argent va juste devenir de l'argent. Ton rapport change. Ce ne sera plus ton identité, ton refuge, ton assurance. Tu seras capable d'être généreux et de guérir le monde avec ça. Ce ne sera plus quelque chose qui te retient, mais un outil pour bénir autour de toi. La seule manière d'être détaché des chaînes, du pouvoir de l'argent, le seul remède, c'est d'être extrêmement généreux. C'est ça, c'est d'être extrêmement généreux. Acte 20, 35. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et comme vous le connaissez sûrement, tu peux donner sans aimer, mais tu ne peux pas aimer sans donner. Et ça, Dieu se l'applique lui-même à lui. Dans Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'on croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le seul remède au pouvoir de l'argent sur nos vies, c'est la générosité. Et croyez-moi, c'est un domaine, la générosité, dans lequel on ne gradue jamais. Ce n'est pas parce que tu as fait des pas de générosité avant que ça assure ta générosité aujourd'hui. C'est tout le temps, il faut redonner, il faut redonner. Est-ce que je suis le seul ici? Qu'à chaque fois que tu viens de faire, oh, ça fait mal. Quand Dieu te demande quelque chose, il te dit, hey, va donner. Parce qu'il y a toujours la pensée de, qu'est-ce que j'aurais pu faire avec cet argent? Voici les sujets importants pour les chrétiens. Voici combien de fois ils apparaissent. Tu sais, quand on parle d'être chrétien, d'avoir la foi, de croire. Le mot croire, dans la parole de Dieu, on le retrouve combien? 272 fois. Si on peut arriver à la prochaine diapo. Ou pas, c'est pas grave. On va avancer. Le mot prier. Le mot prier, on le retrouve 371 fois. 371 fois. Le mot aimer, 714 fois, et le mot donner, 2152 fois. C'est pas moi. Hein. Et l'affaire, c'est qu'on a tendance à dire, souvent, quand on manque d'argent, ou même quand on en a un peu, ce qu'on fait, c'est qu'on a tendance à dire, Seigneur, donne-moi et je te donnerai. Si tu me donnes, si tu me bénis, alors je te donnerai. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu fonctionne différemment. Dieu dit, non, non, toi donne-moi et je te donnerai. Pourquoi? Parce que ça implique un principe de foi. Ça implique un principe de royaume inversé. C'est tout un sujet dans la parole de Dieu, mais c'est-à-dire que le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme le royaume du monde. Et Dieu dit, non, donne-moi et tu vas voir ce que je vais faire pour toi. Pourquoi? Parce que j'ai rien à risquer, à dire donne-moi et je vais donner. Puis souvent, quand on reçoit, on ne donne pas. Mais Dieu dit, non, non, donne-moi. Donne-moi et je te donnerai. C'est ça qui va se passer. C'est dans cet ordre que ça marche. Et c'est ce que dit Luc 6, verset 38. Il dit, donnez et vous recevrez. Il n'y a pas écrit, recevez et vous donnerez. Donnez et vous recevrez. Une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans votre tablier. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Puis vous remarquerez que Dieu ne donne pas la même affaire. C'est secoué, c'est tassé, c'est plein, c'est full. Il y a un verset, il est pas dans le PowerPoint, mais dans les Proverbes qui m'a beaucoup marqué dans ma vie, c'est « Celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. » Et c'est intéressant, on peut vite passer là-dessus, mais « Celui qui donne aux pauvres prête à Dieu », ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble de Dieu va te rembourser? Mais s'il y a un prêt, ça veut dire qu'il y a des intérêts. Et que Dieu va te rembourser avec les intérêts. Et les intérêts de Dieu, ils ne sont pas pires. Il y a une corrélation entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Ça peut être une opportunité, une évolution de carrière, de l'argent. Tu sais, des fois, ce n'est pas mathématique. Il y en a que vous allez entendre dire, si tu donnes ça, alors, si tu donnes 100 pièces, tu verras, tu auras sûrement 200. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Des fois, c'est vrai qu'on reçoit notre argent, mais des fois, c'est une opportunité. Je me rappelle d'un moment dans ma vie où j'avais reçu à cœur de donner un gros montant à quelqu'un, et je l'ai fait. Et c'est fou parce que un mois plus tard, je faisais une offre sur un appartement que la personne m'a dit, ça m'étonnerait que tu l'aies parce que cet appartement, ils ont fait la même offre, puis ça a tout le temps été refusé. Je l'ai eu. Est-ce que vous me suivez? Des fois, ce n'est pas tant ce que Dieu nous donne, c'est ce que Dieu nous fait économiser ou ce que Dieu nous évite. Et des fois, ça peut être autre chose. Ça peut être une relation, ça peut être un mariage, ça peut être... mais Dieu redonne toujours. Il y a une corrélation entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. 2 Corinthiens 9, 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Je m'arrête ici. J'enseigne aux enfants et j'aime leur expliquer ça. Il y a une différence entre tes besoins et tes désirs. Est-ce que vous avez un toit sur la tête? Est-ce que vous mangez à votre faim? Certains un peu comme moi, un peu trop. Est-ce que vous êtes habillés? Vos besoins sont satisfaits. Vos besoins sont satisfaits. Virgule. Pour que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Le désir de Dieu, une fois que tes besoins sont satisfaits, que tu profites de la vie, puis comprenez-moi bien, je crois que Dieu nous a mis sur terre et veut qu'on jouisse de la vie. Quand il y a eu la création, Adam et Ève, c'est profiter. On peut profiter de la vie, on peut aller en vacances, on peut s'acheter, il n'y a pas de problème avec ça. Mais si tu as en abondance, ça va te permettre de faire profiter d'autres. Et Dieu prend plaisir à ça. Satisfaire tous vos besoins, mais pour que tu puisses avoir encore en abondance pour aider les autres. Mais la vérité, c'est qu'on est humain et qu'on a besoin de mesurer les choses. Et parfois, certains demandent, mais combien il faut que je donne pour être vraiment généreux? C'est un peu comme les RER, mais combien il faut qu'on donne? Oh, tu sais, chaque situation est différente. Combien il faut que je donne? Je sais que c'est une question de cœur, mais donne-moi un chiffre. Soit concret, soit pratique, Stéphane, ce matin. Et la réponse est, bon, premièrement, ce n'est pas la bonne question. La première question, c'est, pourquoi je ne veux pas donner plus que ce que je donne? Et c'est une bonne question, parce que si on se pose la question, est-ce qu'on peut donner plus? Oui, on peut. Mais pourquoi je ne veux pas donner plus? Parce que tu ne regardes pas au jeune homme riche par excellence qui dit « J'ai tout donné ce que j'avais pour toi, parce que je t'aimais. » Ne veux-tu pas donner un peu de ton tout pour aimer ton prochain? Mais la deuxième question arrive, et c'est « Combien est-ce que je dois donner ?» Et il y a deux règles du pouce dans la Bible. Il y a deux règles, grosso modo. Il y a la règle du pouce de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament. Et si tu les mets ensemble, c'est hyper puissant, parce que ça reste la parole de Dieu. La première règle du pouce, c'est un test biblique, une règle du pouce qui nous est donnée pour savoir si on est généreux aux yeux de Dieu. Et cette règle du pouce de l'Ancien Testament, c'est 10%. C'est la dîme. On n'aime plus parler de ces choses-là dans l'Église. On dit « Oh non, ça c'est ancien, c'est archaïque. » Non, non. La règle du pouce de l'Ancien Testament, c'est 10%. C'est la dîme. C'est le standard biblique d'une personne généreuse qui est de donner 10% de ses revenus aux personnes en ont besoin, aux pauvres, à l'Église. Il y en a qui disent « Oh non, moi je ne donne pas à l'église. » Oh, ok, super. Est-ce que tu donnes aux pauvres ces 10%? Vous savez, souvent on est contre l'institution, l'église. Mais est-ce que tu es quand même généreux ailleurs? C'est la question que Dieu te pose ce matin. Malachie 3.10 nous dit, il faut bien comprendre le contexte, à l'époque, Dieu avait donné cette règle de 10% et les gens ne le faisaient pas. Et le but de ces 10%-là, ce n'était pas que certains s'enrichissent. Le but, c'était que ces 10% puissent servir à ceux qui n'ont rien. Un peu comme ce qu'on a fait à Noël pour les paniers de Noël, où on a pris de notre temps et de notre argent pour aller chercher des aliments et faire des boîtes pour ceux qui n'en ont pas. Est-ce qu'on a été plus pauvres? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Pourtant, ça a aidé ceux qui étaient dans le besoin. Et Dieu s'énerve, on lui dit, vous me volez. En quoi vous volez, vous dites? Ce que vous deviez amener, les 10% pour les pauvres et tout, vous ne l'avez pas fait. Et voici ce qu'il dit, Malachie 3.10. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve de l'Éternel, le maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Et ça, c'est une promesse pour nous. J'aimerais inviter les musiciens à venir, alors que je termine. Ce qui est intéressant avec ce passage-là, au-delà de la dîme et des portes, des écluses, des cieux qui s'ouvrent pour te bénir, c'est que c'est le seul endroit de la Bible. C'est le seul endroit de la Bible où vous trouverez Dieu qui dit « Mettez-moi à l'épreuve ». C'est le seul endroit de la Bible. Alors qu'il est écrit « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu ». Mais c'est Dieu lui-même qui dit « S'il y a une chose, guys, s'il y a une chose où vous pouvez me mettre au défi, c'est ça. C'est ça. » En fait, c'est la seule fois dans la Bible où Dieu nous autorise à dire « Je vais te mettre à l'épreuve, on va voir si tu es vraiment le Dieu qui pourvoit, on va voir si tu es le Dieu qui répond. »
Il dit, vas-y, viens, teste-le. Et je dois vous avouer, à chaque fois que je l'ai fait, à chaque fois que j'ai testé, ça n'a pas manqué. Dieu a toujours béni. Dieu a toujours béni. C'est le seul endroit. Certains disent, oh, la dîme, c'est la loi, nous sommes sous la grâce aujourd'hui. Alléluia. La vérité, c'est que l'idée de la dîme, le principe de la dîme, était déjà là avant la loi. C'était avec Abraham. Donc, ce n'est pas une affaire de loi. La deuxième chose, c'est que le Nouveau Testament, Jésus et la grâce, mettent toujours la barre plus haut. Toujours. Avant l'Ancien Testament, c'était œil pour œil, dent pour dent. Dans le Nouveau Testament, Jésus arrive et dit, il y a la grâce, donc mon niveau est plus haut. Si quelqu'un te gifle, tends-lui l'autre joue. Si quelqu'un te demande de faire 1 kilomètre avec, fais-en 2. Si tu étais dans l'adultère, c'est pas bon. Dans le Nouveau Testament, c'est si tu as ne serait-ce que pensé à l'adultère. Jésus amène toujours la barre plus haut. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de grâce qu'on est obligé d'élever la barre. Et là, je dis, oh, 10% c'est trop. Mais il y a une nouvelle règle, il y a une règle additionnelle dans le Nouveau Testament. Et cette règle-là, c'est la règle du sacrifice. Est-ce que Jésus a donné un peu de son sang ? Non, il a donné tout son sang. Est-ce que Jésus a donné un peu de sa vie ? Non, il a donné toute sa vie. Le point n'est pas de dire donne tout ton argent et sois pauvre et meurs dans le four à moins 25 degrés sous la tempête qui va arriver ce soir. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est de dire qu'à la hauteur du sacrifice de Jésus, Seigneur, peu importe ce que tu me demandes de sacrifier, je vais le faire. Il y a un épisode dans le Nouveau Testament où Jésus voit les gens qui apportent leur offrande à Dieu. Et bien sûr, les gens riches, ils arrivent, ils sont là, ils sont bons. Et ils montent tous les billets et les chèques. Ils font, regardez tout ce que je mets. C'est incroyable. Et là, les disciples font, wow, t'as vu ce qu'il a mis ? Non ! T'as vu, Seigneur ? Et lui, Jésus, il s'en fiche de ça. Il n'est pas impressionné. C'est le Fils de Dieu. C'est le roi des rois. Par contre, il voit une vieille dame, une veuve qui arrive et qui pose ses 2 petites pièces. Et il dit, elle, c'est celle qui a donné le plus. Parce qu'elle a donné de son nécessaire. Elle a sacrifié. Elle a sacrifié. Je sais que ce n'est pas très populaire des fois de parler de ça dans l'église, mais Dieu parfois nous appelle à sacrifier. C'est pas très populaire parce qu'on met ça sous un couvert de sagesse. Oh non, c'est un manque de sagesse de faire ça. En terminant, j'aimerais vous parler d'un moment dans ma vie où j'ai manqué de sagesse. Où Dieu m'a demandé de sacrifier. C'était il y a longtemps. Et ça se peut que Dieu me demande à nouveau de sacrifier. J'ai pas hâte, ça va faire mal. Je me rappelle, j'avais 20 ans et j'avais décidé de suivre Jésus. Et j'avais décidé de le servir, de devenir pasteur. Je suis né en France, j'ai grandi en France, j'ai vécu en Afrique, enfin bref. Et je suis venu au Canada pour faire mes études en théologie. Je fais ma première année d'école biblique. J'avais fait mes devoirs, j'avais travaillé, j'avais ramassé de l'argent. Sauf que j'avais plus d'argent à la fin de ma première année. Donc le but, c'est de rentrer en France pour travailler. Donc, je rentre en France pour travailler cet été-là. Et je travaille fort, un premier mois, et je mets tout l'argent de côté. Et à la fin du premier mois, ce qui arrive, c'est que j'allais à vélo au travail. Pendant que je m'en allais à vélo, j'étais sur la route. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un bus qui s'est arrêté. Et en France, les trottoirs, ils sont petits. Et je vois qu'il y a du monde qui commence à descendre. Sauf que le problème, c'est que sur le côté, il y a des gros pots de fleurs en béton. Et en fait, je me dis, c'est soit je rentre dans le tas, soit je prends le pot de fleurs. N'écoutant que mon courage, je suis allé dans le pot de fleurs. J'ai fait un vol plané, je suis retombé sur le sol, et le vélo m'est retombé dessus. Sur le coup, ça n'a pas fait mal. Pourquoi ? Parce que l'orgueil est très fort dans ces moments-là. Tu te relèves, tu souris, tu fais « Non, c'est bon, tout va bien, il n'y a pas de problème. » Je vais au travail, j'arrive plus à bouger mon bras. Mon boss me croit pas, il fait ouais. Je vais à l'hôpital et effectivement, je me suis fracturé le coude. Sauf que moi, dans ma tête, c'est oh, je peux plus travailler. Ce qui veut dire que j'aurai pas assez d'argent pour venir au Canada. Et ce qui arrive, c'est que pendant qu'on est là, il y a un groupe des États-Unis. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent The Cry, K-R-Y, qui est en tournée en France. Et on propose de faire partie de la tournée, les accompagner, tout ça. Puis moi, j'ai rien à faire, je m'ennuie chez moi. Donc, je les accompagne. Et on fait le tour de la France et c'est super, c'est incroyable ce qui se passe, tout ça. Et à la fin de la tournée, je suis avec celui qui organise la tournée, il dit, on est dans le trou financièrement, ça ne marche pas nos affaires, ça n'a pas été aussi bon qu'on croyait, je ne sais pas comment on va faire. Alors je rentre chez moi, et là je vais dans ma chambre, et je prie, je me mets à genoux, je dis, Seigneur, viens les aider, viens faire quelque chose, viens faire quelque chose. Et dans ces moments-là, je ne sais pas pourquoi dans ces moments-là, le Saint-Esprit est très fort, il parle fort. Et je sens dans mon cœur que le Saint-Esprit me dit, donne ton argent. Non, mais Seigneur, je te prie, viens les bénir, que quelqu'un puisse donner. Donne ton argent. Mais je sens que c'est donne tout ton argent. Et là, le Saint-Esprit, je dis, tu sais que ça ne vient pas de toi. Tu sais que ce n'est pas une deuxième voix que tu t'es créée dans ta tête. Et là, je me dis, j'ai 20 ans à l'époque. Et je suis chez ma mère, tout ça. Et ce que je fais, je dis, ok, d'accord. Bon, on va être sage quand même. On va être sage parce que tout, quand même. Et j'essaie de descendre à l'étage du bas pour aller voir ma mère. Et je lui dis, maman, si tu devais me dire un montant, qu'est-ce que tu veux dire un montant? Donne-moi un ordre de grandeur. Non, un montant. Peu importe, entre 1 et 1 million, quoi, on s'en fiche. Je sais pas pourquoi. Ma mère dit exactement le montant que j'ai dans mon compte. Non, pas amen. À ce moment-là, je peux te dire que c'est pas une bénédiction. Ma mère dit, écoute, je l'ai pas aiguillé. Elle dit le montant. Puis c'est un montant bâtard un peu. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un chiffre rond. Mais elle me donne le montant et je fais. Elle dit pourquoi? C'est pourquoi? Non, pour rien. Pour rien. Puis là, je réfléchis pendant 2-3 jours, je continue à prier quand même, hein, au cas où qu'il y ait une autre solution qui puisse arriver, on ne sait jamais, tu sais, Dieu est tout puissant. Et là, je dis, bon, il faut que je le fasse. Fait que je vais à la banque, puis ça n'existait pas, c'est les virements bancaires, Interac à cette époque-là. Puis je sens que Dieu me dit, non seulement tu vas le donner, mais en plus, tu ne vas pas dire que c'est toi. Tu vois, parce qu'à la limite, je me suis dit, au pire, je suis pauvre, mais au moins, je suis généreux. Regardez-moi. Et donc, je vais à la banque, je retire tout l'argent qu'il y a sur mon compte en liasse de billets. Je mets une enveloppe. Je pars, je sais où habitent les gens. Je prends le train, le métro, je marche. Je vais jusqu'à la maison, j'ouvre la boîte aux lettres. Comme ça, j'ai mon enveloppe. Elle est comme ça, l'enveloppe. Parce qu'on peut ouvrir comme ça. Je suis... Et là, au fond, ça s'entend. Et moi, je fais. C'est ça que je fais. Parce que c'est fini. Il y a zéro dans mon compte. Et là, je retourne chez moi. Et tu sais, la conviction que j'ai fait la bonne chose. Je retourne chez moi, je vais dans ma chambre. Je me mets à genoux. Et là, je ne peux pas t'expliquer pourquoi, mais alors que je suis dans la louange et je prie Dieu. Je suis envahi d'un sentiment incroyable de pauvreté. Je suis pauvre. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Oh, la gloire. Non, je me sens pauvre. Comprends-tu? Je suis pauvre. Avant de faire ça, je sentais que Dieu me disait, donne-le cet argent. De toute façon, tu n'auras pas assez d'argent pour retourner au Canada. Anyway, est-ce que tu n'es pas mieux de me faire confiance? Et c'est ce que j'ai fait. 4-5 jours plus tard, je reçois un appel de quelqu'un du Canada, un ami qui me dit, écoute, avec mon épouse, on a eu à cœur de t'héberger pour la prochaine année. Ok. Great, c'est bon ça. Et une semaine avant, deux semaines avant mon départ, je reçois ce qu'on appelle une prime d'activité en France, parce que j'ai travaillé, qui a payé exactement le montant de mon billet d'avion. Je vais pourvoir à tous tes besoins. Fais-moi confiance. Tu comprends pas tout, ça te fait peur, puis c'est correct. J'avais zéro sur mon compte, il n'y avait rien. Je ne pouvais pas travailler. Le manque de sagesse absolue. Mais Dieu a pourvu. Dieu a béni. Fais confiance à Dieu avec tes dîmes, avec tes offrandes, et tu verras s'il n'ouvre pas les écluses des cieux pour toi. Je l'ai trop vécu dans plein d'endroits, dans plein de domaines de ma vie où, je vous le dis, on ne peut pas battre Dieu au jeu de la générosité. Dieu sera toujours plus généreux que vous. Donnez, donnez. Oui, à l'église, mais donnez autour de vous, donnez aux pauvres, donnez aux... Ce n'est pas une question de garder ça pour... Non, ce n'est pas ça. Fais confiance à Dieu avec ton argent. Fais-lui confiance. Il va te surprendre. Il va te surprendre. Je termine avec ça. Matthieu 6, 19, 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent des robes. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Notre vie sur terre est éphémère. Puis la vérité, c'est que si on devient le gars le plus riche du cimetière, ce ne sera pas la meilleure des choses spécialement. Dieu n'est ni pour la richesse, ni pour la pauvreté. Le désir de Dieu, c'est vrai, c'est de nous bénir et de nous faire prospérer. Mais qu'ultimement, que cette prospérité puisse être disponible pour ce que Dieu veut faire au travers de nous. Oui, il reçoit la bénédiction, mais il reçoit la bénédiction pour être la bénédiction. Puis il y en a peut-être certains, en ce moment, c'est tendu, c'est difficile financièrement. J'aimerais te dire que Dieu est Jéhovah Jiré. Ça veut dire quoi? L'Éternel qui pourvoit. Que Dieu prend soin de ceux qu'il aime. Fais-lui confiance. Il ne tardera pas. Il pourvoira à tous tes besoins. Amen. Est-ce qu'on pourrait se lever ce matin en terminant? J'aimerais vous remercier. Je sais que j'ai été long ce matin. Je sais que j'ai été long. C'est un sujet pas évident, pas facile. Mais j'espère que vous êtes bénis ce matin de savoir que Dieu maîtrise tout. Mes finances sont entre ses mains. Donne-lui tes finances. Donne-lui tes finances. Il sait ce qu'il fait. Et tu ne seras jamais déçu avec lui. Le chant qu'on chantait ce matin, c'est « Tu traces un chemin ». Dieu trace un chemin pour nos vies, pour un plan parfait. Dieu trace un chemin pour nos finances. Et il a des guidelines. Rentre dans ces guidelines-là. Fais-lui confiance. Tu verras. Tu ne seras jamais déçu. Est-ce qu'on peut prier ce matin en terminant avant de chanter ? Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu de toute éternité. Tu es le roi des rois. Seigneur, la parole de Dieu nous dit qu'à toi appartiennent l'or et l'argent. Seigneur, tu n'as pas besoin de notre argent. Tu peux faire sans. Mais ton désir, c'est qu'on puisse être libre de ça. Que l'argent n'ait pas de pouvoir sur nous. Alors Seigneur, on va regarder à Jésus ce matin. À toi qui as tout abandonné, qui a laissé toutes tes richesses en arrière pour venir sur terre. Mourir sur la croix pour nous. Tu as délaissé ta gloire, tu as délaissé le faste, tu as délaissé l'or et l'argent. Pour dire, je les aime tellement, je vais donner jusqu'à ma vie pour toi. Seigneur, qu'on puisse avoir cet état d'esprit-là. Que notre argent puisse être à ta disposition, qu'on puisse être des intendants fidèles. Seigneur, tu n'as rien contre l'argent, tu n'as rien contre le fait qu'on profite de la vie. Mais ton désir aussi, c'est que si on profite, qu'on puisse aider aussi notre prochain. Alors Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour l'abondance qu'on a. Merci Seigneur, parce qu'on a tout en toi. Seigneur, tu traces un chemin pour nos vies, quand on veut rentrer dedans, alors qu'on puisse chanter ce matin. Tu traces un chemin. Alléluia.